Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
Nous parlons à présent de la réinsertion sociale des enfants de la rue. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour arriver à réinsérer socialement les enfants, à les réinsérer dans leur famille? À Kinshasa, le nombre d'enfants en rupture familiale ne cesse d'augmenter. D'après les experts, ces enfants passent leur vie à la belle étoile, livrés à eux-mêmes et à la violence de la rue pour assurer leur survie. Ils s'adonnent au vol, à la prostitution infantile et à des petits travaux. Alors que faire aujourd'hui pour réconcilier ces enfants avec eux-mêmes, avec leur famille, leur environnement, en vue d'une réinsertion sociale et familiale durable? On en parle avec nos deux invités, Virginie Nialibondi, éducatrice de terrain, et Arnaud Moussete, éducateur social au centre d'accueil Ndako Yabiso. La première question, Arnaud, pourquoi cette appellation Ndako Yabiso?
Ndako Yabiso, c'est un nom que nous avons emprunté des enfants eux-mêmes, des enfants qui sont en situation difficile, des enfants en rupture familiale.
Oui.
Alors, nous, quand on a commencé la structure, ou disons, le projet d'accueil des enfants en rupture familiale, on cherchait les noms. Et eux-mêmes disaient chaque fois, Toke n'est pas un Abiso, Toke n'est Ndako Yabiso. Ah, on a trouvé le nom, c'est ça qu'il faut pour la structure d'accueil des enfants de la rue, Ndako Yabiso.
Et cette structure se trouve à Rond-Point-Gaba, c'est ça?
Se trouve à Rond-Point-Gaba.
Rond-Point-Gaba.
Oui, à quelques 200 mètres du Rond-Point-Gaba. Vous êtes sur Triangle à l'envers, à l'université.
D'accord.
Et c'est là où nous sommes.
Alors, aujourd'hui, Madame Virginie, vous êtes éducatrice des terrains. Quelle est la situation des enfants aujourd'hui? Les enfants appelés de la rue, il y en a combien aujourd'hui?
Je peux répondre à cette question. Les enfants sont environ, plus de 25 000.
Plus de 25 000 aujourd'hui.
Oui.
Et quelles sont les raisons qui font que ces enfants se retrouvent aujourd'hui dans la rue?
Les raisons principales, je peux dire, ce sont d'abord le divorce, la misère, les enfants dits sorciers, et puis d'autres causes élémentaires.
Le divorce, lorsque papa et maman ne sont plus ensemble.
Ne sont plus ensemble, et puis souvent ce sont ces enfants qui sont victimes de tout.
Mais pourquoi ils ne vont pas rester, peut-être par exemple avec maman, ou d'autres peuvent aller avec papa?
Souvent c'est ça. Un enfant peut-être, il peut vivre chez la maman, mais la maman est censée de se remarier. Or, le nouveau papa ne peut pas accepter d'élever un enfant qui n'a pas mis au monde. Et puis souvent, les tantes viennent pour dire que c'est cet enfant-là qui est sorcier. À cet âge, l'enfant est chassé de la maison.
Et il se retrouve dans la rue.
Il se retrouve dans la rue et puis abandonné à lui-même.
Voilà, et la misère, quand vous parlez de la misère, vous pensez à quoi?
Bon.
La pauvreté dans les familles.
Oui, la pauvreté dans des familles. Et la pauvreté. Les enfants ne savent pas bien manger. Quand ils ne mangent pas, il faut ils se cherchent à eux-mêmes comment manger. Ils descendent dans la rue, là c'est facile, ils volent, ils trouvent même 2000 francs. Or, à la maison pour manger, peut-être toute la journée, ils ont peut-être 500 francs. Avec 500 francs, et puis la maman fait tous les programmes avec ça. Une fois dans la rue, elle a la facilité ou il a la facilité d'avoir 2000. 5 000 par jour, le mieux serait de rester dans la rue où il peut manger à sa faim.
Voilà. Alors, Arnaud, d'autres raisons qui font que les enfants aujourd'hui, on parle de plus de 25 000 enfants dans la rue aujourd'hui, quelles sont les autres raisons qui poussent les enfants dans la rue?
Virginie a déjà presque évoqué toutes les raisons. Donc, il y a la misère, il y a toutes les accusations de sorcellerie. Il y a d'abord, il faut souligner que tous ces enfants qui sont dans la rue, donc chaque enfant c'est un cas, il a une histoire, donc des histoires qui ne se ressemblent peut-être pas. Donc je reviens pour dire qu'il y a des accusations de sorcellerie, il y a la misère familiale, il y a l'inoccupation, il y a le divorce, il y a le décès de parents, et voilà. donc la liste est longue.
Voilà, la liste est exhaustive. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à réussir leur réinsertion sociale?
Alors, donc, d'abord, il y a cette écoute. Il faut écouter l'enfant pour connaître son histoire. Alors, je voulais vraiment souligner le fait que ces enfants, ils ont vécu une histoire difficile. Ils ont vécu une expérience de vie douloureuse. Alors, cette expérience qui fait qu'ils se sont construits une image négative d'abord d'eux-mêmes. C'est pourquoi dans notre travail, on parlait de réconciliation de l'enfant avec lui-même. Mmh. Ils se sont construits une histoire négative d'eux-mêmes, de membres de leur famille et même des autres membres de l'environnement socioculturel.
Qu'est-ce qu'ils vous disent par exemple? Qu'est-ce qu'ils vous disent généralement?
Je vais partir d'un témoignage. Par exemple. Nous avons des enfants, quand ils viennent, ils vous disent par exemple, moi, je suis dans la rue parce que je n'ai pas connu les papas. Je n'ai pas connu mon papa, on ne m'a jamais montré qui est mon papa. Et il s'est retrouvé dans la rue. Là, je donne un exemple d'un jeune qui aujourd'hui à l'université, son papa et sa maman, chaque fois lui disaient que tu es un enfant bâtard, tu es un enfant bâtard, vous allez t'habiller ici, tu es un enfant bâtard. Et tous ces mots remontés ça fait que cet enfant puisse être traumatisé et il s'est fait une idée négative de lui-même, de sa famille et même de l'environnement socio-culturel dans lequel il s'est retrouvé. Mmh. Et voilà, du coup, il a décidé de quitter la famille parce qu'il ne retrouvait pas l'affection qu'il attendait de sa maman et même des autres membres de sa famille. Voilà, c'est pourquoi il s'est retrouvé dans la rue. Et nous, notre travail, c'est de pouvoir déconstruire cet enfant, l'aider à déconstruire cette idée négative et l'accompagner à se reconstruire. À se reconstruire, à se réconcilier avec lui-même, se réconcilier avec le membre de sa famille, se réconcilier avec son environnement socio-culturel, et voilà, il retrouve, il s'est construit une identité familiale, et il s'est reconstruit sa personnalité, et il retrouve sa place au sein de la famille et au sein de la société. Voilà.
Alors donc, avant de parler de le ramener en famille, il faut d'abord un travail en lui-même.
Bien sûr, bien sûr.
Et comment vous arrivez à le faire, Madame Virginie, pour reconstruire son image?
Bon, d'abord, écouter l'enfant, la mettre en confiance pour qu'il vous partage son vraie histoire. Parce qu'il y a souvent, la première fois de faire l'écoute, il ne parle pas la vérité. Il monte des trucs pour seulement que vous l'accueillez. Et puis, après avoir fait beaucoup d'écoute, là, il amène confiance en vous, il peut livrer son vraie histoire. Avec ça, on peut travailler. Si on voit que l'histoire remonte de longtemps, là, on peut faire appel à un psychologue, pour l'aider à travailler.
Vous travaillez avec des psychologues dans votre vision?
Oui, on travaille avec les psychologues. Et puis, petit à petit, le fait que vous parlez avec elle, vous le montrez encore l'autre visage de la vie que la rue, et puis vous lui donnez encore autre image de la maison. Au même moment que vous travaillez avec l'enfant pour la réinsertion, au même moment aussi, vous travaillez avec la famille. Parce qu'un enfant accusé de sorcier, on ne peut jamais l'accueillir à la maison. Et puis, quand vous partez dans la maison, vous cherchez comment aller montrer que l'enfant n'était pas sorcier. C'était juste de bouc émissaire que la famille a trouvé ou bien que la personne a trouvé pour chasser l'enfant de la maison. C'est pour cela qu'on fait le travail de tous les deux côtés. Une fois tous les deux côtés sont prêts, on réunifie l'enfant. Et puis après la réunification, il y a encore du travail à faire.
Alors vous êtes éducatrice, vous travaillez beaucoup plus sur les terrains, comme éducatrice des terrains. Alors c'est quoi votre travail? Qu'est-ce que vous faites exactement sur les terrains?
Sur le terrain, une fois l'enfant réunifié, on la laisse d'abord une semaine pour la réintégration à la maison. Et puis après une semaine, si l'enfant a moins de 18 ans ou bien un enfant n'a pas une grande taille, on l'inscrit dans une école non loin de la maison pour éviter les mauvais compagnons. Et puis, si l'enfant a une grande taille, on peut la mettre dans une formation professionnelle pour l'aider. Et puis là, chaque semaine, on passe à la maison pour leur rendre visite, voir l'évolution, comment ils se comportent à l'école, jusqu'à ce que l'enfant sera réellement intégré et puis on peut laisser là.
Alors, M. Arnold, au niveau d'Ndako Yabiso, qu'est-ce que vous offrez, les services, quels sont les services ou les activités, les services que vous offrez à ces enfants?
Oui, il y a différents services. Il y a l'écoute. D'abord, il y a cette présence.
Oui.
La présence, c'est important dans notre travail d'accompagnement et d'encadrement des enfants en rupture des liens familiaux. Donc, il y a d'abord cette présence. Il y a l'écoute. Bien sûr, au niveau du centre, il y a différents services. Il y a douche et lessive parce que ces enfants, dans la rue, ils n'ont pas le temps de pouvoir se baigner.
Est-ce que vous les hébergez là-bas, dans votre centre d'accueil?
Alors, nous avons deux centres. Il y a des centres d'accueil pour filles et il y a des centres d'accueil pour garçons. L'hébergement, c'est pour les filles. Mais pour les garçons, nous avons seulement le milieu ouvert. Ils arrivent, ils ont douche, ils ont la possibilité d'échanger leurs habits parce que nous avons des armoires qu'on a organisées pour pouvoir garder les habits qu'on leur offre. Et puis voilà quoi. Donc il y a aussi une prise en charge sanitaire. Et il y a un petit repas qui est offert.
Chaque jour, ils ont un petit repas.
Chaque jour, ils ont un repas. Si j'allais oublier, il y a l'alphabétisation, voilà.
Voilà, et l'alphabétisation. Un auditeur en ligne, Albert Mwananga, il nous appelle des Kananga. Il vous écoute depuis Kananga, il appelle pour participer. Et vous voulez également le faire, appelez-nous au 081-890-63-94.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capu.
Bien, nous parlons de la réinsertion sociale des enfants en rupture familiale. Comment s'y prendre? Albert Mwananga, bonjour.
Bonjour Daniel Kachamé, bonjour à nos invités.
On vous écoute.
Merci beaucoup. J'ai une question à poser à notre invité, peut-être deux questions comme ça. La première, c'est de savoir pourquoi beaucoup de structures, soit de la réinsertion ou de l'intégration des enfants orphelins, de la rue, tout ça, existent toujours dans les milieux urbains et non dans les milieux ruraux. Est-ce qu'on peut dire là-dessus que dans les milieux ruraux, on ne trouve pas de telles catégories d'enfants? Ça, c'est ma première question. Oui. La deuxième, qu'est-ce qu'il faut faire au juste pour que toute structure ou ONG qui s'occupe de telle ou de telle chose soit vraiment aussi installée dans le milieu rural? C'est ça ma question. Merci beaucoup.
Bien, M. Arnaud, qu'est-ce que vous voulez dire directement?
D'abord, le milieu rural, on connaît, disons, dans le milieu rural, traditionnellement aussi, que c'est le milieu où il y a encore de la solidarité. Donc, un enfant... Il y a la famille, il y a des clans qui s'occupent de la famille. Donc les situations, les difficultés que les enfants rencontrent dans le milieu urbain, et même s'ils pouvaient les rencontrer dans le milieu rural, mais il y a toute la famille qui s'organise pour prendre en charge, pour essayer de s'occuper des enfants normalement. Donc dans le milieu rural, bien sûr, la situation n'est pas pareille. Mais nous savons qu'il y a aujourd'hui le milieu rural et le milieu urbain, il n'y a plus de barrières parce qu'il y a des échanges. Il y a petit avoir certaines situations comme les accusations de sorcellerie qui de plus en plus commencent aussi à être plus fréquentes dans le milieu, au courant, disons, dans le milieu rural. Ça ne veut pas dire que nous allons déplacer tout notre arsenal de travail pour descendre dans le milieu rural, mais il y a déjà des structures, des mécanismes et des protections, que ce soit la famille, que ce soit les clans, que ce soit aussi certaines structures qui travaillent surtout pour la protection de l'enfant en milieu rural, qui les font très bien. Donc, le travail des enfants de la rue en milieu rural, moi personnellement, je vois pas pourquoi on devait aller installer ou ouvrir un projet des enfants de la rue ou un projet des enfants en situation difficile en milieu rural. Ça, c'est l'une des raisons. Il peut y avoir d'autres raisons aussi. Par exemple, nous savons qu'il y a des Il y a des églises aujourd'hui, disons l'église catholique, qui s'occupe des orphelins, qui s'occupe de tous les enfants qui sont en situation difficile dans de différents milieux ruraux. Donc voilà, donc il y a déjà une bonne structure, il y a déjà un mécanisme de protection, de prise en charge qui est bien déjà organisé dans le milieu rural. Ces questions qui sont organisées, ces questions qu'on puisse les contacter pour voilà trouver des issues pour des enfants qui rencontrent des difficultés ou des, disons qui rencontrent des lacunes dans leur vie. Au quotidien. Alors, voilà.
Aujourd'hui, le centre d'accueil Ndakouabusso fête ses 10 ans, je crois.
Oui.
Et vous êtes au rond-point Gaba, la paroisse Sainte-Christine. Alors dites-nous, dans 10 ans, combien d'enfants ont été réinsérés dans leur famille?
Alors, nous allons fêter notre 1500e enfant, ce sera le...
Aujourd'hui.
C'est aujourd'hui. Il y a 1500 enfants réinsérés.
Oui. Ça c'est le... Donc aujourd'hui, nous allons...
En 10 ans.
Oui, en 10 ans. Mais ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas une fierté pour nous, parce que on vous a dit tantôt, c'est le 25 000 enfants.
25 000 enfants, et quand on voit le nombre, 10 ans, 1500 seulement, voilà, c'est pas grand-chose, on dirait.
Oui, c'est pas grand chose, c'est vrai, mais c'est, on dirait que c'est une goutte d'eau dans la mer, mais cette goutte d'eau est importante pour, voilà, pour remplir les lits qui voilà. Donc, ce n'est pas.
Mais en tout ce qu'on peut retenir que la réinsertion n'est pas une chose facile.
Ce n'est pas une chose facile.
Madame Virginie.
Bon, la réinsertion, c'est pas une chose facile. Parce que, quand on réinsère l'enfant, il y a aussi les rechutes. C'est-à-dire, parmi les 1500, il y a aussi ceux qui sont rechutés. Et puis, réinsérer plusieurs fois. C'est-à-dire, dans les familles, on trouve toujours des difficultés qui poussent les enfants toujours à descendre dans la rue. Et puis, nous, on continue toujours à travailler. C'est-à-dire, la réinsertion est
réchuter,
difficile.
Ça veut dire l'enfant peut être réinséré en famille et après on les retrouve encore dans la rue.
Oui.
Pourquoi? Parce qu'on l'a encore maltraité à la maison. Ou il s'est mal comporté à la maison.
Bon, dans tous les deux sens.
Oui.
Des fois, maltraité encore plus qu'avant. Et puis d'aider, enfant habitué avec une certaine liberté, revenir en famille. Là, il y a encore de l'ordre, des principes à suivre. Et puis l'enfant.
Il ne supporte pas.
Et
alors, vous étiez en train de dire que la première phase pour réussir la réinsertion d'un enfant, c'est l'écoute. Il faut l'écouter, connaître son histoire et l'aider à reconstruire son image, l'image qu'il a de lui-même. Alors, quelle est la deuxième phase?
Oui, alors, donc la deuxième phase, quand on est arrivé déjà à accompagner, encadrer l'enfant d'une manière nécessaire à ce qu'il puisse se reconstruire, nous devons maintenant passer en famille, retrouver la famille et travailler de nouveau avec la famille. Et Madame Virginie l'a bien noté, travailler de nouveau avec la famille, aussi accompagner la famille, parce que cette pathologie, la famille aussi, c'est une famille qui souffre, généralement une famille qui pour laquelle on retrouve son leur gamin dehors ou dans la rue, c'est une famille qui souffre, qui souffre, qui a besoin de l'aide, parce que l'enfant en fait quand il vient dans la rue, c'est qu'il vient parce qu'il y a un drame au niveau de sa famille, et il vient nous annoncer que dans ma famille ça ne va pas.
Alors donnez-nous l'exemple d'une famille que vous avez approchée et racontez-nous comment vous avez pu négocier avec la famille pour qu'elle accepte de reprendre l'enfant.
Alors là, des exemples sont, mais je vais prendre juste des témoignages. Nous avons par exemple, il y a un enfant qui, toute la famille en fait s'est retrouvée dans une église. Et l'enfant, lui, était dans la rue parce qu'au fait, au niveau de l'église, il ne pouvait pas supporter les rites, ou disons, les rites de délivrance qui étaient généralement accompagnés de traumatismes. Il devait passer peut-être plusieurs mois.
L'église et toute la maison était à l'église.
Toute la maison s'était retrouvée à l'église.
Pourquoi?
Mais dans la famille, parce que la maman habitait dans la famille de papa. Et la famille de papa a dit que maintenant, la femme que tu nous as ramenée, c'est une sorcière et tous ses enfants. Et le papa, il lui a décidé d'amener tous les enfants dans une église pour être délivrés. Et sa femme, bien sûr. Mais en arrivant à l'église, le supplice que l'enfant subit était tellement insupportable qu'il était obligé de descendre dans la rue.
Et il est descendu. La délivrance, comment ça se passait, cette délivrance-là?
En tout cas, c'est souvent accompagné de traumatismes. L'enfant peut passer une semaine sans manger. L'enfant peut prendre certaines potions qui créent des vomissements terribles. L'enfant peut être
brûlé. On lui dit, allez boire ça rapidement.
Bien sûr, il
comme
peut être
ça,
brûlé.
Nous
avons déjà ici, je pense, dans votre studio, nous avons déjà livré une cassette, j'ai peut-être, ou un CD, qui a essayé de rapporter tous les traumatismes que les enfants sont en train de subir dans des familles, que ce soit des familles, disons, dans le milieu.
Et cet enfant-là n'a pas supporté.
Il n'a pas supporté, il est descendu dans la rue, nous l'avons rencontré, il nous a expliqué la situation, on a parlé. Avec d'abord le papa qui était, lui, n'était pas à l'église, mais il était resté dans la famille.
Il a seulement envoyé sa famille à l'église.
Mais de temps en temps, quand il trouvait quelque chose, il les ramenait, il donnait à l'église pour qu'on puisse nourrir sa famille.
Oui.
C'est alors que nous avons essayé de convaincre le papa pour dire que maintenant, il y avait une autre possibilité de pouvoir aider ses enfants, ou disons sa famille. Au début, c'était pas facile de dire à quelqu'un que non, ton enfant n'est pas sorcier. Dire à quelqu'un aujourd'hui que ton enfant n'est pas sorcier, mais ça ne passe pas, parce que, au fait, c'est toute la communauté, toute la société aujourd'hui qui est derrière, qui vit cette psychose de la sorcellerie. Alors, on a essayé de travailler longtemps avec le papa, il a été convaincu finalement, on a compris qu'il y avait autre chose derrière toute cette souffrance de la famille. Il vivait d'abord une situation de misère. Mais un bon charpentier qui pouvait travailler et bien nourrir sa famille en dehors de l'espace familial, ou disons de la parcelle familiale. C'est ce que nous avons fait, on a ramené. Et on leur a trouvé une garantie locative. Le papa s'est installé et il a pu récupérer d'abord sa famille et récupérer l'enfant qui était dans la rue. Mais il y avait autre chose après, parce que il y a la maman était grosse, mais elle a mis au monde un enfant qui est né avec une malformation anale. Ouais. Et dans notre communauté, une malformation, des anomalies.
C'est la sorcellerie.
C'est la sorcellerie. Et là, la famille, le papa a dit, mais non, donc on m'a pas aidé assez, donc l'enfant, il y a encore quelques...
Il est toujours sorcier, donc voilà, il y a
encore des éléments de pouvoir, des enfants qui ont ce pouvoir de nuisance.
Ouais.
Nous avons dit que, mais non, ce n'est pas vraiment de la sorcellerie, c'est quelque chose qui arrive, et on a pris en charge l'enfant. Là, je salue Martin qui a travaillé durement, c'est lui qui s'occupe de la santé, il a travaillé durement, et finalement, on a pu intervenir, et guérir l'enfant. L'enfant, aujourd'hui, il passe en deuxième, troisième primaire. Donc voilà, donc la famille aujourd'hui est réunie. Et c'est pour un seul enfant que nous avons pu d'abord réunir cet enfant avec lui-même, réunir toute la famille et avec la famille, les autres membres de la famille et les autres membres de l'environnement, famille et société.
Mais ce n'est pas un travail facile.
Ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas un jour. On rencontre là quelques minutes, mais c'est un travail qui peut prendre deux, trois, même une année, voire des ans.
Voire des ans.
Bien sûr.
Et là, vous avez même sorti l'argent pour payer la garantie, afin que ses papas trouvent une maison et restent avec sa famille.
Bien sûr.
Oui. Alors, Virginie, autre chose, on comprend que la réinsertion n'est pas un travail facile. Ça demande du temps.
Oui, ça demande du temps.
Voilà, ça demande du temps. L'insertion sociale des enfants de la rue, comment s'y prendre? On en parle avec nos deux invités. Vous avez des questions et préoccupations, appelez-nous au 081-890-63-94.
Découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Réinsertion sociale des enfants en rupture familiale. Aimé Minaku, vous êtes à Iziro, en province orientale. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour aussi à nos invités.
Oui, on vous écoute.
Oui, j'ai qu'une seule question de savoir, après avoir inséré l'enfant et que l'enfant grandit dans la réinsertion, est-ce qu'il sera encore capable, il sera encore normal que ses parents viennent encore réclamer ou encore récupérer l'enfant, ou c'est comment vraiment, et est-ce qu'il y a des conditions à remplir pour que l'enfant soit référé ou comment? Voilà mes questions aujourd'hui.
Merci. Virginie, vous avez la parole.
Bon, la réinsertion, c'est pas son famille. C'est-à-dire, nous, on ne reste pas avec l'enfant pendant toute sa vie. L'enfant est chez nous pendant quelques temps pour l'écouter, pour parler avec elle, chercher à trouver la solution pour cet enfant. Une fois réinséré en famille, c'est là que nous travaillons avec l'enfant. C'est là qu'on peut les faire scolariser, qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire comme service à notre niveau. C'est pas dire que l'enfant est chez nous pendant un temps jusqu'à ce qu'il grandisse, non.
Et dans le centre Ndakoyabiso, vous gardez les enfants. Vous avez dit que c'est pour les filles, il y a un centre d'hébergement. Pour les garçons, c'est juste un centre ouvert, je crois. Mmh. Ils peuvent venir laver les vêtements, manger, et puis ils rentrent dans la rue.
Oui.
Et comment maintenant, et pour les filles que vous hébergez, comment vous faites?
Une fille au centre, on l'écoute, on l'offre des services. Par exemple, douche, le repas, il se change. Après, on continue à l'écouter davantage.
Et pourquoi vous hébergez les filles et non les garçons?
Les filles sont sensibles. C'est-à-dire, ils sont exposés à beaucoup de...
La prostitution infantile.
La prostitution, les viols, tout, qu'est-ce qu'on peut dire? Les filles sont faibles, quoi. Et puis, on les garde pour les protéger. Et puis, après... Les écouter en profondeur, parce que les filles, pour qu'ils disent la vérité, pour qu'ils parlent quelque chose qui l'a touché au fond, c'est un peu difficile. Vaut mieux avoir un peu de temps, de la mettre en confiance pour bien écouter et puis qu'ils s'ouvrent, quoi.
Voilà. Excellent, on nous appelle de Bukavu. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, excellent.
Oui, je vais juste demander une petite question à Madame Virginia.
Oui.
Je voudrais savoir, est-ce que le fait de faire la réinsertion sociale des enfants de la rue, c'est gérer une conséquence ou bien c'est gérer une cause? Et qu'est-ce qui peut être meilleur entre gérer une conséquence et gérer une cause? Merci.
Bien. Gérer une conséquence ou gérer une cause? Dieu merci de Manono Katanga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Oui, moi, j'ai une question à poser à l'invité.
Oui.
Ma première question, c'est de savoir, c'est de demander la différence entre un enfant non accompagné, un enfant en rupture familiale et un enfant sans soutien familial. Donc, m'aider à différencier ces trois mots. Ensuite, j'ai un exemple et il va m'aider parce que c'est parfois... C'est parfois ce que nous sommes en train de vivre à Manono. Il y a une fille, par exemple, de 12 ans, 14 ans, 15 ans ou 16 ans. Cette fille, ses parents n'ont pas accepté de payer ses études. Elle se débrouille elle-même, elle paye, c'est tout, elle trouve l'argent, elle paye ses études. Ben, parfois, ses parents ne jouent même pas le rôle. Ses parents ne connaissent pas contrôler cette fille-là. C'est elle-même qui se débrouille, qui se dérange pour trouver le moyen de financer ses études. Maintenant, parfois, les parents ne connaissent pas ou même cette fille passe nuit. Ou nous, parmi ces trois, où est-ce que nous allons classer cet enfant? Moi, j'avais des questions, M. Journaliste.
D'accord, merci. Alors, on commence avec vous, Madame Virginie. La question du premier intervenant qui posait la question de savoir est-ce que... Vous êtes en train de, quand on parle de la réinsertion d'un enfant en rupture familiale, la réinsertion en famille, alors s'agit-il, est-ce que vous êtes en train de gérer une cause ou bien vous gérez une conséquence?
On gère des conséquences.
Oui.
C'est, bon, si je dis qu'on gère des conséquences, parce que c'est quelque chose qui est de longtemps. Les conflits peut-être... la situation qu'ils vivent maintenant en famille, c'est une conséquence des causes qui est causée avant. Peut-être la maman qui avait mis au monde avant le mariage. Et puis, le mari en question ne lui marie pas. Il trouve encore l'autre mari qui n'aime pas cet enfant. Et puis, l'enfant est maintenant conséquent de la situation de la maman.
Mmh. Voilà, monsieur Arnold.
Moi, je voulais revenir pour dire, en fait, d'abord, il y a un fait, un phénomène est toujours lié à une cause. C'est-à-dire qu'il y a au départ des instigateurs qui ont provoqué cette situation. Donc, en fait, moi, nous, là, nous ne gérons pas une cause ou nous ne gérons pas une conséquence, mais nous gérons une situation, nous gérons un fait, nous sommes entrés en fait, peut-être les mots gérer, c'est un peu trop, mais nous sommes entrés, au fait, de travailler pour pouvoir, essayer de régler une situation qui est devenue, disons, dramatique dans notre communauté. Donc, cette situation, il est parti d'une cause et qui a des conséquences aujourd'hui dramatiques. Alors, tout notre travail, c'est de pouvoir canaliser nos efforts de manière à ce qu'on puisse retrouver un équilibre au niveau de la famille, au niveau de la société. Voilà, donc c'est juste pour appuyer un peu madame par rapport à la question de notre auditeur.
Alors si je comprends bien, pour assurer une bonne réinsertion sociale ou familiale des enfants de la rue, on ne travaille pas seulement avec ces enfants, même avec les familles en crise.
Bien sûr.
Parce que c'est là où le problème commence.
Bien sûr, nous travaillons. C'est d'abord cette situation de la famille. Donc il y a l'enfant. Si l'enfant se retrouve dans la rue,
c'est qu'il y a une crise.
Il y a une crise. Il y a une situation dramatique au niveau de la famille.
Oui.
Alors, donc notre travail, c'est de pouvoir accompagner l'enfant et guider la famille de manière qu'ils puissent retrouver un équilibre familial et qu'ils puissent se retrouver ensemble de manière durable.
Voilà. Et Dieu merci qui demande la différence entre l'enfant non accompagné, enfant en rupture familiale et enfant sans soutien familial.
Alors, par rapport à ça, un enfant non accompagné, c'est généralement quand on est dans une situation de guerre. Dans une situation de guerre, des enfants qui se retrouvent sans parents, ce sont des enfants, généralement qu'on dit, des enfants non accompagnés. Un enfant en rupture familiale, c'est un peu une expression pour dire que l'enfant est en rupture des liens familiaux. Un enfant qui n'est plus en contact avec sa famille, mais qui mène une vie qui a élu domicile dans la rue. Voilà. Et un enfant qui n'a pas de... Vous avez dit...
Un enfant sans soutien familial.
C'est un peu l'exemple qui vient d'évoquer tout à l'heure. Il y a un problème de responsabilité de la famille, ou disons, de responsabilité de parents, pour que l'enfant se retrouve un peu dans une situation, voilà quoi, qui n'est pas confortable.
Siméon nous appelle de Calémy. Bonjour.
Bonjour, monsieur Noël. Bonjour.
Veuillez éteindre votre radio, vous allez suivre à partir de votre téléphone, Siméon. Voilà, nous parlons aujourd'hui.
Avant de poser vraiment ma question, je voulais d'abord parler à notre invité par rapport à la réponse qu'il a donnée à la question qui avait été posée par le professeur de Kananga. Il a répondu que c'est mieux vraiment d'encadrer les enfants qui souffrent dans les crassantes que c'est là qu'il se passe dans le village et les consorts, parce que là, il y a la solidarité. Je voulais même vous dire qu'il est vraiment loin de la réalité. Pourquoi? Parce que l'enfant qui souffre dans des grands centres, là, peut-être qu'il peut transporter une charge et puis on va lui donner 1000 francs, 500 francs, mais il est difficile tout d'abord pour celui qui souffre au village même d'attraper un 100 francs. Aussi, au village, nous avons encore un grand problème pour moi de financement. Alors, ma question s'adressait pour moi à la dame. Tantôt, je lui ai entendu dire que les enfants, les filles ont l'air pas vraiment d'encadrement. Cependant, les garçons viennent là-bas pour manger et puis ils retournent encore au marché. Alors, ma question était de savoir maintenant quel est leur travail. Est-ce que les enfants là, puissent venir là-bas manger et retourner au marché, ou bien leur travail c'est de faire partir les enfants du marché pour regagner vraiment leur famille? Merci, c'était ma question.
Bien, merci Madame Virginie. Alors, les enfants, les garçons viennent au centre manger et ils repartent, tandis que les filles sont hébergées. Alors, il a l'impression que il se demande pourquoi laisser les garçons retourner encore au marché ou dans la rue, alors que votre travail, c'est de les sortir de là.
Notre travail, c'est de les faire sortir de là, mais vu les possibilités, on n'a pas encore assez de place pour accueillir et les garçons et les filles. C'est un projet. C'est-à-dire, dans les années qui suivent, peut-être on peut avoir aussi un centre d'hébergement pour les garçons. Mais pour les filles, il n'y a pas un problème jusque-là.
Et les filles, combien de filles sont hébergées à Ndakoyabisson?
Pour le moment, nous avons 15 filles au centre.
Et est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent manger et puis ils repartent? Non, il y a quel garçon?
Pour les filles, c'est... Ils viennent, quand ils ont moins de 18 ans, on les retient pour l'encadrement jusqu'à la réinsertion. Et puis, pour les autres, les grandes, ils viennent, on les écoute et puis ils rentrent. Quand ils acceptent, parce qu'ils sont déjà majeurs, on ne peut pas les forcer ou bien les obliger à venir ou bien à rentrer à la maison. Mmh. Là, on les conscientise jusqu'à ce qu'ils vont accepter de montrer la maison et puis de rentrer en famille. À ce moment-là, on va faire les enquêtes. On découvre que s'il y avait un problème, on essaye d'arranger et puis on les réinsère.
Voilà, et les garçons, hein, monsieur Arnold, ils viennent souvent manger, laver leurs vêtements, ils repartent après. Combien, vous avez déjà reçu combien d'enfants, de quelques tranches d'âge?
Bon, les enfants, ils arrivent, présentement, par exemple, nous avons des enfants déjà qui ont 7 ans, qui sont au centre, qui arrivent. Bien sûr, que nous avons, madame Virginie l'a dit, nous, on ne veut pas créer une dépendance avec les familles, surtout avec les enfants. Donc, tout notre travail, c'est les filles, elle l'a souligné, c'est vraiment pour protéger les filles. Mais pour les garçons, parce que il y a plusieurs exemples qui montrent que quand vous prenez plus, en fait, ça c'est nous. On ne dit pas qu'il n'y a pas de centres de bergeois pour les garçons, il y en a. Et c'est important, des centres d'hébergement pour les garçons. Mais dans notre milieu, on s'est rendu compte que nous étions souvent dans des difficultés de pouvoir directement commencer un travail d'hébergement pour les garçons. Ça va être un projet. Mais c'est qu'il y a d'autres familles qui s'organisent pour envoyer les enfants dans la rue. Ah, mais tu sais, chez les prêtres, là, il y a un centre. Vous allez dans la rue et ils vont vous prendre, vous allez manger et voilà quoi, on va vous scolariser. Donc, c'était cette crainte que nous avons eue au départ.
Pour donc, il y a certaines familles qui envoient les enfants dans la rue, qui s'arrangent.
Oui. Donc, c'est la crainte que nous avons eue par rapport à ce projet d'hébergement pour les garçons. Nous avons eu cette crainte de pouvoir... Ça, c'est notre... Dans le milieu dans lequel nous travaillons.
Mmh. Mais il y a d'autres... En Gaba.
Oui, nous sommes à Makala.
Makala.
Il y a d'autres structures qui travaillent déjà et c'est un travail efficace pour les centres d'hébergement. Donc, nous, souvent, s'il y a des cas, on travaille avec d'autres structures qui ont des centres d'hébergement et nous pouvons transférer dans ces centres pour qu'ils soient pris en charge de façon plus... voilà quoi, donc confortable.
On retient pour insérer, réussir la réinsertion d'un enfant social, familial, il faut l'approcher, l'écouter, le mettre en confiance, l'aider à reconstruire l'image qu'il a de lui-même, et puis entamer des démarches auprès de la famille. Et ça prend, vous avez dit que ça prend du temps.
Oui, chaque enfant c'est un cas, parce que chaque enfant c'est un cas.
Donc tout dépend de l'histoire.
Voilà, ça dépend des cas de l'enfant. Donc il y a un enfant qui peut arriver aujourd'hui dans la rue, vous l'écoutez, vous travaillez, et demain il rentre en famille. Il y a des enfants qui peuvent faire une semaine, mais il y a des enfants pour qui les blessures sont tellement grandes, et la situation est tellement peut-être complexe, que nous sommes obligés de travailler aussi pendant la durée, de manière à détruire des idées négatives, à détruire tout ce qui empêche la cohésion, disons, l'unité de la famille. Voilà.
Un numéro par lequel joindre votre structure?
Alors, nous avons les 081 68 73 397. C'est le frère Jean-Pierre, le directeur du centre lui-même.
Voilà, et le centre appartient à la communauté du Chemin Neuf. Voilà. Un auditeur a rebondi sur la question de cet auditeur de Kadanga, qui vous disait les enfants qui sont dans la rue, dans les grands centres urbains, peuvent faire du porteur et gagner de l'argent, mais ceux qui sont dans les milieux ruraux ne trouvent rien, ils n'ont pas de moyens, tout ça, et ce sont des enfants qui souffrent beaucoup.
Ça, on le sait. Moi, j'ai pas dit qu'on ne devait pas s'occuper des enfants qui sont dans le milieu rural, qui rencontrent des situations difficiles. Mais j'ai seulement soulevé le fait que dans le milieu rural, ou disons dans nos villages, généralement, il y a toujours cette façon de pouvoir s'occuper de leur orphelin, de pouvoir s'occuper de cet enfant en situation difficile. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des situations qui font que dans certains villages ou dans certaines communautés, cette solidarité est en panne. Mais ça ne veut pas dire que nous allons croiser les bras. Nous devons travailler. Le frère qui est là, il faut qu'il travaille de manière que dans le milieu, là où il se retrouve dans son village, de manière que cette solidarité puisse... Nous ne pouvons pas perdre cette solidarité, parce que sinon, si nous arrivons déjà à perdre cette solidarité dans le milieu rural, mais notre société est en panne et nous sommes en train de perdre, d'une manière ou d'une autre, la force, ou disons, la magie que nous avions de pouvoir prendre en charge les enfants. J'appelle magie parce que la solidarité, elle est plus forte que voilà tout ce que nous sommes en train d'entreprendre.
Bien, Arnaud Domouchete, éducateur social, Anda Koyabiso, il est chargé des affaires extérieures. Nous vous disons merci et nous disons également merci à Virginie Nyali Bondi, éducatrice des terrains au centre d'accueil des enfants de la rue, dénommée Anda Koyabiso. Merci et à la prochaine.
C'est nous qui vous disons merci, au revoir.